Imaginons un instant un général d'armée qui décide de remporter une guerre, pas en écrasant ses ennemis, mais en les laissant le vaincre.
C'est totalement absurde sur le papier, hein.
Ah bah complètement. On s'attendrait à ce qu'il soit destitué direct pour trahison ou au pire pour folie douce.
Ouais, clairement. Et pourtant, en fait, c'est exactement la stratégie qui est décrite au cœur d'un des textes antiques les plus débattus de l'histoire.
Et c'est justement ce qui nous amène aujourd'hui. Notre exploration nous plonge dans les notes d'une session assez fascinante.
Tout à fait. Une session dirigée par le docteur John Oswalt, qui analyse en profondeur les chapitres 52 et 53 du livre d'Ésaïe.
Et ce qui ressort de ces sources, c'est que ce texte, qui a quand même plusieurs millénaires, il prend notre conception moderne du pouvoir, du succès, de la force, et il la retourne complètement.
C'est exactement ça. Mais pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut d'abord planter le décor.
Ouais, posons le contexte. On part d'un peuple, Israël, qui est coincé dans une situation vraiment catastrophique. Ils sont exilés, déportés à Babylone.
Et quand on lit ça rapidement, on se dit, leur problème, c'est la géographie, quoi. Ils veulent juste rentrer chez eux.
C'est le réflexe logique. Mais les notes de cette session soulignent que l'enjeu est beaucoup plus profond que ça. C'est surtout une question d'aliénation spirituelle.
C'est le nœud du problème, en fait. La crise n'est pas d'abord militaire, elle est d'identitaire. Et l'auteur du texte utilise un contraste saisissant entre deux villes pour bien illustrer ça.
D'un côté, on a Babylone.
Voilà. Babylone, historiquement, ça représente l'apogée de l'arrogance impériale. C'est la puissance qui s'est élevée toute seule, en bâtissant des tours immenses, en conquérant tous ses voisins.
En se déclarant invincible, quoi.
Exactement. Et le résultat de cette autoglorification, elle finit par s'effondrer. Et elle se retrouve assise dans la poussière des ruines de l'histoire.
Ironique. Et de l'autre côté, on a Jérusalem. Et là, le message qui lui est adressé est totalement contre-intuitif.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le texte demande à Jérusalem de secouer la poussière de sa captivité, certes, mais pour faire quoi? Pour accepter de s'asseoir volontairement dans cette même poussière.
Dans une posture de vulnérabilité totale, donc.
C'est ça. Le principe est vraiment limpide dans le texte. L'orgueil humain, la tentative de s'élever par ses propres forces, ça finit inévitablement par humilier.
Donc, accepter sa propre faiblesse, s'asseoir dans la poussière, c'est la condition sine qua non pour que la force divine puisse ensuite élever ce peuple sur un trône.
Exactement. L'orgueil humilie, la confiance élève.
D'accord. Je comprends l'idée, mais restons pragmatiques une seconde. Ce peuple, il est métaphoriquement et littéralement dans la poussière, là.
Oui.
S'ils ne peuvent pas utiliser la force brute ou, monter une armée pour se libérer, comment la situation peut-elle se débloquer sur le terrain? Parce qu'à l'époque, on ne sort pas d'un empire comme Babylone en demandant poliment, tu vois?
Ah non, clairement pas. Mais le texte aborde cette question par une métaphore juridique très spécifique, celle de la vente.
La vente, c'est-à-dire?
Eh bien, le peuple gémit, persuadé que Dieu les a vendus à l'Empire babylonien pour éponger une sorte de dette cosmique. Il se voit vraiment comme une monnaie d'échange.
D'accord.
Mais la réponse qu'il aurait faite est brutale et libératrice en même temps. Il leur est dit « Je vous ai vendu pour rien ».
Attends, vendu pour rien? Ça sonne presque comme une insulte, non? Genre, vous ne valez même pas une pièce de monnaie.
C'est vrai que formuler comme ça, la formulation peut piquer l'ego. Mais d'un point de vue légal, dans le contexte de l'époque, c'est en fait la meilleure nouvelle possible.
Ah oui? Pourquoi ça?
Parce que si la vente s'est faite pour rien, sans aucune transaction financière, ça signifie qu'il n'y a aucune dette à rembourser.
Ah, je vois. Donc aucun créancier ne détient un droit légitime sur eux.
Exactement. Dieu n'a pas besoin de négocier une rançon avec Babylone ou de faire un compromis diplomatique. L'intervention peut être totalement libre et unilatérale.
C'est fort, ça.
Et l'objectif de cette libération n'est pas seulement de les changer de pays, mais de leur faire expérimenter le caractère fondamental de ce Dieu, le fameux « Je suis ».
Donc on sort de la théologie abstraite pour vivre concrètement ce que signifie une puissance incommensurable couplée à une grâce totalement gratuite.
C'est tout à fait ça.
Mais même si on n'a pas besoin d'une rançon diplomatique, on a quand même besoin d'une action physique. Les sources utilisent pour ça une image très concrète, celle d'une ville assiégée.
Oui, une image très parlante pour l'époque.
Faut se rappeler qu'à cette époque, bien avant les canons, les bombardements, on détruisait pas les murailles en un jour. On encerclait la ville, on coupait les vivres et on attendait.
On attendait simplement que les gens à l'intérieur meurent de faim ou s'entretuent pour un morceau de pain. C'était une stratégie d'étouffement lent.
C'est ça. Et pour la population à l'intérieur, la paralysie est totale.
Complètement. Il n'y a aucune manœuvre tactique interne qui puisse briser un blocus pareil. Le salut, par définition, il doit venir de l'extérieur.
Et c'est là qu'on a cette scène incroyable dépeinte dans le texte, non ?
Oui, l'image est saisissante. C'est celle d'un guetteur, un guetteur famélique, qui est posté sur les remparts de cette ville condamnée. Et soudain, au loin, sur la crête des montagnes, il voit la poussière se soulever.
Il aperçoit un messager.
C'est ça, un messager qui court à perdre haleine. Et ce coureur vient annoncer qu'une armée alliée a remporté une victoire décisive très loin de là et que l'ennemi va devoir lever le siège.
C'est un moment de tension extrême. Les notes du docteur Oswalt font d'ailleurs un parallèle historique super intéressant avec la célèbre bataille de Marathon en 490 avant notre ère.
Ah oui, l'histoire du coureur ?
Exactement. Un messager a couru plus de 42 km d'une traite, en armure, juste après en avoir couru plus de 80 la veille pour chercher des renforts. C'est surhumain.
Uniquement pour annoncer la victoire aux Athéniens qui étaient terrorisés. Il arrive, il crie « Nous avons gagné !» et il s'effondre, mort d'épuisement. Mais la nouvelle seule suffit à changer le désespoir en liesse.
C'est la cavalerie qui arrive en fait. Bon, décortiquons cela parce qu'il y a un frottement qui me dérange. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Je t'écoute.
D'un côté, on nous décrit cette intervention extérieure massive. Dieu retrousse ses manches, montre toute sa puissance pour sauver des gens affamés et impuissants.
Oui, l'initiative est totalement la sienne.
Mais de l'autre, le texte dit aussi explicitement que les habitants doivent sortir. Ils doivent quitter leur péché, se mettre en mouvement.
C'est vrai.
Si la force divine est si écrasante et fait tout le travail, pourquoi exiger un effort de la part de victimes à bout de force ?
C'est un très bon point.
Ça me fait penser au sauvetage maritime en pleine tempête. Un hélicoptère des gardes-côtes arrive, se positionne au-dessus d'un bateau en perdition, le sauveteur descend avec un treuil.
Avec une technologie et une force que la victime n'a pas du tout.
Exactement. Mais à un moment donné, si la victime refuse de lever les bras, d'attraper le harnais et de grimper dans la nacelle, l'hélicoptère ne sert à rien. Elle se noiera avec le salut qui plane juste au-dessus d'elle.
La comparaison avec le sauvetage maritime est parfaite, parce qu'elle met en lumière ce concept de synergie du salut.
Synergie du salut, c'est-à-dire ?
Le texte prend soin de ne jamais réduire l'être humain à un simple objet inanimé qu'on déplaçait d'un point A à un point B. L'action divine est l'élément déclencheur, c'est clair.
Elle garantit la sécurité.
Exactement. Les sources précisent d'ailleurs que Dieu se place à l'avant-garde pour ouvrir la route et à l'arrière-garde pour protéger des attaques dans le dos. La route est sécurisée, le blocus est brisé.
D'accord.
Mais l'invitation nécessite une réponse. Il faut choisir de quitter l'endroit qui nous détruit. L'intervention ne force pas la porte de la volonté humaine. Elle crée l'opportunité absolue, mais comme tu dis, elle exige qu'on lève les bras pour attraper ce harnais.
Ok. Donc la voie est libre, la victoire est annoncée par le messager. On s'attend logiquement à voir débouler le grand triomphateur, le roi guerrier, l'hélicoptère dernier cri, pour reprendre l'analogie.
On s'y attend, oui.
Et c'est là que l'analyse des sources révèle un virage à 180 degrés. Qui est vraiment ce sauveur ?
Alors, avant même d'aborder son identité, il y a un détail structurel que le docteur Oswalt soulève et qui change complètement notre grille de lecture.
Un détail historique, c'est ça ?
Oui, une bizarrerie historique. Quand on ouvre ce texte aujourd'hui, on suppose naturellement que le chapitre 53, qui décrit ce sauveur, est un bloc indépendant qui commence au verset 1.
Oui, c'est logique.
Mais c'est une véritable illusion d'optique. Les divisions en chapitres de la Bible hébraïque n'ont été fixées qu'aux alentours de l'an 1008 de notre ère. Et ici, le découpage est grossièrement erroné.
Ils se sont trompés d'endroit pour couper le texte.
Complètement. Le poème commence en réalité à la fin du chapitre précédent, à Ésaïe 52, verset 13. Et quand on rétablit cette structure d'origine, on découvre une symétrie poétique de 5 strophes.
D'accord. Et ça change quoi de voir ces 5 strophes ?
Ça change tout le sens. La première et la dernière strophe dépeignent une exaltation majestueuse, un triomphe qui laisse les rois de la terre sans voix.
Le triomphe qu'on attendait, donc.
Voilà. Mais tout le centre du poème, les 3 strophes du milieu, ça décrit un désastre absolu, un écrasement total. Le message, c'est que le salut ne se trouve pas dans l'évitement de la souffrance. Il est enfoui en plein cœur de cette souffrance.
Et au cœur de ce désastre, on trouve la description physique de ce fameux serviteur. Et c'est là que ça devient hyper déstabilisant.
C'est le cœur du paradoxe.
On nous décrit quelqu'un qui n'a absolument rien d'un leader charismatique. Il n'a aucune beauté, aucune prestance. Les textes le comparent à, je cite, « une petite plante malingre poussant sur un sol aride ».
Oui, l'image d'une racine chétive qui essaie de survivre.
C'est le genre de mauvaise herbe insignifiante sur le bord de la route qu'on piétine sans même s'en rendre compte, en fait.
C'est fou. parce que nos projections culturelles sur la divinité sont tellement fortes qu'on a vraiment du mal à lire ce texte sans y ajouter nos propres filtres de grandeur.
On veut que le divin soit beau et puissant.
Exactement. D'ailleurs, les notes font référence à une vieille émission de radio américaine des années 50 sur le bon samaritain.
Ah oui, cette anecdote est géniale.
Ouais, à chaque fois que le personnage de Jésus ou du divin devait parler à la radio, l'acteur prenait toujours une voix de basse résonante, ultra profonde.
Avec les accords d'orgue majestueux en fond sonore.
C'est ça, le cliché total. On veut que le divin soit impressionnant selon nos critères humains. Or, la description littérale du texte parle de quelqu'un de repoussant, de laid, d'un individu dont on détourne volontairement le regard.
Donc si ce serviteur apparaissait dans notre monde aujourd'hui, l'anecdote suggère qu'il ne descendrait pas d'un jet privé en costume de créateur.
Loin de là. Il arriverait probablement au volant d'un vieux bus scolaire cabossé, accompagné d'une douzaine d'individus marginaux qui ressemblent plus à des voyous de rue qu'à un prestigieux cabinet ministériel.
Ce rejet visuel me fascine vraiment. Je me suis posé la question, pourquoi cette laideur ?
C'est une question cruciale.
Imaginons la scène politique aujourd'hui. On annonce l'arrivée d'un leader censé sauver l'économie ou le pays. On s'attend à une mise en scène impeccable, un sourire parfait, des vêtements qui respirent le pouvoir.
Un défilé triomphal, en somme.
Voilà. Et si, à la place, un homme au costume usé jusqu'à la corde, au visage marqué, monte sur le podium? La salle se vide. Le texte précise même que les gens cachent leur visage devant lui.
C'est un détail très fort.
Et je me demande, est-ce que l'humanité est tout simplement incapable de supporter la présence d'une bonté transparente? Est-ce que cette pureté d'intention, complètement dénuée des artifices qu'on utilise tous pour paraître plus important, agit comme un miroir aveuglant ?
C'est une analyse très profonde.
Peut-être que sa vulnérabilité, dénuée d'artifices, nous renvoie à notre propre fausseté et qu'elle nous condamne silencieusement. Donc, on préfère regarder ailleurs.
Cette réaction de rejet met vraiment en lumière la fragilité de nos critères de valeur. On accorde notre confiance à ce qui flatte notre œil ou notre ego.
Mais du coup, la question qui se pose, c'est, puisque ce serviteur est rejeté par tout le monde, comment accomplit-il sa mission de salut ?
Eh bien, le texte opère ici un basculement troublant. Il n'accomplit pas sa mission en convainquant la foule par des discours brillants, ni par la force brute, mais en prenant sur lui le fardeau de ceux-là même qui le rejettent.
Il absorbe le choc.
Il absorbe physiquement et spirituellement la violence de cette même foule. Il porte littéralement nos chagrins et nos douleurs.
Et l'ironie la plus noire du poème, c'est la réaction de la foule qui assiste à ça, non ?
Oui. La foule pensait qu'il méritait son châtiment. Il se disait « il l'a bien cherché ». S'il souffre autant, c'est que la justice divine le punit.
C'est le sommet de l'incompréhension.
Totalement. Et pourtant, c'est par ce broyage que s'établit le fameux shalom.
Le shalom. Tu peux préciser un peu ce que l'expert entend par là dans les sources ?
Bien sûr. Le mot shalom en hébreu va bien au-delà de notre concept moderne de paix, qu'on comprend souvent comme une simple trêve ou l'absence de bruit.
Ouais, pas juste un cessez-le-feu, quoi.
Non. Le shalom, c'est le bien-être complet, la complétude. C'est la restauration de chaque chose à sa juste place, l'intégrité totale d'une personne ou d'une société. En gros, il se laisse démanteler pour que l'humanité puisse être réassemblée.
Et pour justifier le fait que nous avons tant besoin d'être réassemblés, l'auteur emploie la fameuse métaphore des brebis.
Oui, nous étions tous errants comme des brebis.
Le docteur Oswald raconte dans ses notes sa propre expérience d'élevage de moutons dans sa jeunesse. Et j'avoue que ça casse un peu le mythe bucolique.
Ah oui, c'est beaucoup moins romantique d'un coup.
Il explique que les moutons ne sont pas animés par une volonté maléfique de se perdre ou par une stupidité profonde, ils sont simplement monomaniaques.
Ils sont obsédés par une seule chose à la fois.
C'est ça, leur cerveau se focalise sur un objectif immédiat, une belle touffe d'herbe bien verte, le mouton avance, mange la touffe, il envoie une autre un mètre plus loin, il y va, une autre à gauche, il y va.
Il ne calcule absolument rien d'autre.
Et soudain, au bout de 2 heures, il lève la tête, la nuit tombe, il n'y a plus de troupeau, plus de bergers, il est encerclé de prédateurs, totalement perdu.
Et l'iniquité, selon la perspective de ce texte antique, c'est précisément ce comportement. Ce n'est pas forcément d'être un tyran sanguinaire, c'est l'égocentrisme du quotidien.
C'est la poursuite constante de notre propre avantage immédiat, en fait.
Exactement. Notre petite touffe d'herbe personnelle, sans prêter attention à la vue d'ensemble ou aux conséquences sur ceux qui nous entourent. C'est une dispersion aveugle.
C'est fou à quel point ça décrit notre comportement avec nos smartphones aujourd'hui.
Ah oui, comment ça?
Bah, c'est la mécanique exacte de ce qu'on appelle le doom scrolling sur les réseaux sociaux. On se pose 5 minutes pour regarder une vidéo courte, ça nous donne une petite décharge de dopamine, notre touffe d'herbe numérique, quoi.
Ah, je vois très bien l'image.
Le cerveau en veut une autre, on glisse le doigt, on clique sur une chose, puis une autre. On a l'illusion de contrôler notre trajectoire parce qu'on choisit de scroller.
Et au final?
Et puis on lève les yeux, il est 2h du matin, on ressent un vide immense, on est épuisé et on a perdu la vue d'ensemble. On suit notre instinct immédiat et on finit complètement isolé.
C'est une analogie vraiment pertinente et le contraste avec le comportement du serviteur dans le texte est hyper frappant.
Lui aussi est comparé à un mouton pourtant.
Oui, mais dans une circonstance totalement différente. Il est décrit comme une brebis mulette qu'on mène à la tonte ou à l'abattoir. Les notes racontent l'histoire d'un bélier particulièrement agressif dans la ferme du docteur Oswalt.
Une bête féroce qui chargeait tout le monde, c'est ça?
Ouais, une terreur. Le jour de la tonte, tout le monde s'attendait à une bataille rangée. Mais le tondeur professionnel s'est approché, il a saisi fermement l'animal par une patte arrière et il l'a déséquilibré pour l'asseoir contre ses propres jambes.
Et là, que s'est-il passé?
À l'instant précis où le bélier a perdu ses appuis naturels, il a cessé toute résistance. L'animal, d'une agressivité folle quelques secondes avant, est devenu incroyablement docile, silencieux, les pattes pendantes.
Et le serviteur adopte cette posture face à ses accusateurs.
Exactement. Ce n'est pas seulement qu'il perd le combat ou qu'il abandonne sa volonté, c'est qu'il abandonne volontairement son droit le plus légitime, le droit d'avoir raison.
Attends, abandonner le droit d'avoir raison face à l'injustice.
Oui, c'est dur à avaler.
C'est même extrêmement difficile à entendre, ouais. Surtout dans une culture comme la nôtre, où on est constamment encouragé à défendre nos droits, à répliquer, à ne rien laisser passer.
Mais il se laisse délibérément asseoir dans la poussière sans émettre une seule plante.
Et ça nous amène directement à la partie franchement la plus choquante de toute notre exploration.
Le fameux verset difficile.
Oui, le texte dit littéralement « Il a plu à Dieu de l'écraser par la souffrance ». Soyons honnêtes, si le serviteur abandonne tous ses droits pour nous, pourquoi Dieu permet-il une telle horreur ? Quand on lit ça, on a l'impression d'avoir affaire à un monstre cosmique.
C'est indéniablement le point le plus abrasif du poème.
On nous dit même que ce serviteur meurt sans enfant, enterré avec des riches pervers, effacé de l'histoire. Comment on peut parler de plaisir ou de joie à écraser quelqu'un de juste ?
C'est sûr que la traduction des émotions divines en langage humain atteint ici ses limites. Pour tenter d'effleurer ce paradoxe, sans voir Dieu comme un monstre, le docteur Oswald s'appuie sur une histoire poignante. Celle du gardien d'un pont ferroviaire mobile.
C'est l'histoire qui sert de pont, métaphoriquement, pour comprendre.
C'est ça. Imagine l'immense structure d'un pont qui se lève pour les navires et s'abaisse pour les trains. Un jour, le gardien amène son jeune fils au travail. Le siffleur retentit, le train express arrive en pleine vitesse. Le père enclenche les leviers pour abaisser le pont, et là...
Il entend un cri de terreur.
Oui, au milieu du vacarme. Son fils a glissé, son bras est pris dans les engrenages principaux du pont.
C'est le cauchemar absolu.
Le père a quelques secondes pour réagir. S'il stoppe et inverse la machine pour sauver son fils, le pont ne se verrouillera pas à temps. Le train, avec 300 passagers à bord, va plonger dans le fleuve.
Un choix impossible.
Et s'il maintient le levier pour sauver le train, la machinerie continue et broie son propre fils. Histoire raconte que ce père, déchiré de douleur, s'est plaqué les mains sur les oreilles pour ne pas entendre l'agonie de son enfant, et il a maintenu le levier.
Il a sauvé les passagers du train.
Quand le texte antique dit qu'il a plu à Dieu d'écraser le serviteur, utiliser le mot « plaisir » est presque une obscénité si on s'arrête au premier degré. Ce que ça décrit, c'est ce père qui se bouche les oreilles au cri de son fils pour sauver l'humanité.
C'est glaçant.
Le plaisir, entre guillemets, n'est pas dans le bruit des eaux qui se brisent, mais dans la vue du train qui traverse le pont en toute sécurité.
C'est une puissance incroyable. Le père ferme les yeux sur le supplice de son enfant, non pas parce qu'il aime la souffrance, mais parce qu'il regarde le salut de cette multitude. Et le texte prend soin de préciser que cet écrasement n'est pas la fin de l'histoire.
Heureusement. Il est écrit « Il verra à une postérité ».
Et ça rejoint l'autre grande métaphore des sources, celle de la naissance. Le résultat de ce sacrifice.
C'est vrai qu'on romance souvent la naissance.
Ouais, dans les films, c'est toujours beau. Mais la réalité d'un accouchement difficile, c'est un chaos physique. C'est décrit crûment, c'est douloureux, c'est l'angoisse, le sang. Et quand le bébé naît, bah, il est souvent laid, gluant, il hurle. C'est un vrai traumatisme.
Un épuisement total pour le corps.
Mais dès l'instant où cet enfant est posé sur la poitrine de sa mère, c'est comme si le soleil perçait les nuages. La chimie du cerveau bascule et l'angoisse devient une satisfaction absolue.
C'est ce qu'on appelle la joie de l'enfantement. Et le texte utilise exactement ces termes. C'est par l'angoisse de son âme qu'il sera rassasié.
Alors tout prend sens. Ce que ça veut dire au fond, c'est que la joie de Dieu n'est pas dans la souffrance elle-même, mais dans la création d'une famille mondiale innombrable qui en découle.
Tu as tout compris. Le triomphe majestueux de la première strophe ne contourne pas le désastre, il en est le fruit.
Ça redéfinit complètement notre notion du succès. Le pouvoir ultime, ce n'est pas la force brute.
Non, c'est la capacité d'absorber tout le mal du monde, toute la haine, et de ne rendre que de l'amour et de la restauration. C'est l'invisibilité par la vulnérabilité volontaire.
Si on résume un peu notre parcours d'aujourd'hui, on a démarré avec un peuple exilé, qui espérait la cavalerie militaire, et on découvre que le véritable pouvoir divin est une vulnérabilité volontaire.
Une force d'absorption du mal, oui.
Un sauvetage qui exige juste qu'on lève les bras.
C'est un renversement total des valeurs. Et d'ailleurs, pour clôturer cette analyse, il y a une pensée provocatrice qui m'est venue en lisant ces notes et que j'aimerais laisser flotter pour quiconque nous écoute.
Je t'écoute.
Si l'apparence physique de ce serviteur était délibérément si peu séduisante pour éviter que les gens ne le suivent pour des raisons superficielles, que dit ce texte sur notre culture moderne de l'image ?
Ah oui, on est en pleine dedans, là.
À une époque où le leadership est presque exclusivement basé sur le charisme, l'apparence et les relations publiques, sommes-nous aujourd'hui devenus structurellement incapables de reconnaître l'autorité morale authentique si elle ne passe pas bien à la caméra ?
C'est une réflexion vertigineuse sur la façon dont on choisit ceux qu'on écoute et qu'on suit. Et c'est là-dessus que s'achève notre exploration d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans cette plongée et à très vite pour la prochaine.